Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et si tu gérais ton propre cloud avec un logiciel open source? Accroche-toi à ton casque parce qu'aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de Proxmox en production. Tu te demandes peut-être comment gérer 200 VM comme un pro? Tu vas peut-être bien trouver la réponse dans ce podcast. Alors je te l'annonce d'emblée, notre invité du jour est un véritable maître en la matière. Il gère un cluster monstrueux, voué à craquer de VM avec du Ceph pour le stockage. Oui, tu as bien entendu, 200 VM. Et si tu penses que c'est tout, bah détrompe-toi parce que Valentin, il a développé une interface web pour déployer des VM avec Terraform. Ouais, ce mec, il respire le DevOps. Et en plus, il a créé sa boîte pour accompagner les entreprises à aller vers l'avenir. Alors, prépare-toi à décoller vers les sommets d'expertise.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité qui, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de cloud privé avec Proxmox et Terraform. Alors, avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. Ça s'appelle les Compagnons du DevOps. Cette communauté, c'est bien sûr le podcast que tu es en train d'écouter ou de regarder sur YouTube puisqu'il y a la chaîne YouTube, mais c'est avant tout une communauté en ligne, un forum où on échange avec plus de 1500 personnes aujourd'hui quotidiennement sur justement ce forum. Donc rejoins-nous pour ne plus être seul face à tes questions puisque tu as plein de réponses sur le forum. C'est le premier lien en description pour t'inscrire ou tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr, tu verras, il y a une petite description, tu pourras t'inscrire et tu recevras l'invitation au forum. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme qui murmurait à l'oreille des VM, à savoir Valentin Ouvrard. Alors, bonjour Valentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie?
Bonjour Christophe, déjà je suis ravi de passer sur ton podcast. Donc je m'appelle Valentin Ouvrard, je vis en Nouvelle-Calédonie et je viens de passer 10 ans en tant qu'administrateur système Linux et réseau dans un fournisseur d'accès. Et donc j'ai commencé classique à créer, administrer des machines et ça fait à peu près 5 ans que je me suis vraiment intéressé aux conteneurs grâce à Docker au début pour simplifier le packaging d'applications et petit à petit à Kubernetes, l'automatisation des VM avec, moi je suis parti plus sur SoulStack à l'époque. Voilà, et également donc des clusters de serveurs physiques pour créer des VM. Et depuis peu, j'ai monté ma société à mon compte, OpsNC, donc pour réaliser des formations, des prestations en entreprise, également pour la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et les accompagner vers ce nouveau paradigme qui est l'approche DevOps.
Eh ben merci. De toute façon, je mets le lien de OpsNC en description. Alors, j'ai quelques questions que je pose à chaque fois pour commencer dans les épisodes de podcast, notamment ces épisodes d'interview. Et la première, c'est quelle est ta propre définition à toi du DevOps?
Très bien. Moi, j'aime bien illustrer ça par le fait que dans le passé, on avait tendance à avoir les ops et les devs dans deux bureaux séparés qui faisaient pas du tout le même travail, avec un gros mur au milieu. Et donc les seules communications qu'ils avaient entre eux, c'est s'envoyer des tickets. Et donc, les développeurs étaient souvent mécontents des ops qui leur demandaient trop de sécurité ou qui mettaient trop de temps pour leur créer les machines sur lesquelles mettre leur application. Et les ops étaient souvent critiques envers les devs parce qu'ils ne cherchent pas forcément à comprendre comment le système fonctionne et tout. Et donc, le DevOps, j'ai l'impression que c'est un petit peu de casser ce mur et responsabiliser les devs comment leur application doit tourner jusqu'en production et également responsabiliser les ops à mieux comprendre les besoins des devs et à leur fournir les outils pour qu'ils soient un peu plus autonomes dans leur développement.
Et toi, justement, tu l'as vécu, cette séparation avec le mur entre les devs et les ops dans ton expérience professionnelle?
Pas vraiment, parce que dans ma boîte actuelle, on a peu de développeurs vu qu'on est un FAI, donc on a eu au maximum 3 développeurs, donc forcément, on était déjà plus ou moins dans cette approche DevOps. Mais en travaillant en prestation dans d'autres entreprises, j'ai vraiment vu cette frontière avec ces tickets Jira pour créer une VM qui prend une semaine, etc. Donc, je l'ai vécu, mais pas vraiment dans mon entreprise.
Ouais, c'est quelque chose qu'on a pas tous vécu. Moi, c'est vrai que je l'ai vécu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça, parce que ça m'a vraiment traumatisé dans mon expérience professionnelle. Justement, toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle?
On va dire que les premiers outils DevOps qu'on peut qualifier de DevOps que j'ai utilisé, ça a été Docker et des gestionnaires de configuration, donc SoulStack. On utilisait Puppet à l'époque, mais j'ai effectué une migration vers SoulStack que je trouvais plus simple d'utilisation et aussi écrit en Python. Et vu qu'on utilise beaucoup de Python dans mon entreprise, ça permettait de potentiellement contribuer à l'outil, etc. Et donc, du coup, déjà, ces deux outils m'ont bien simplifié la vie, contrairement au paradigme d'avant d'administrer les machines comme des animaux de compagnie. Et déjà, j'ai fait cette transition du point de vue ops, de les traiter plus comme du bétail. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça a été la mise en place d'intégration continue pour nos développeurs, de la containerisation, le fait que le développeur pouvait facilement switcher entre plusieurs projets à base de conteneurs sur sa machine. Donc, en tout cas, les développeurs de ma boîte ont vraiment senti ce changement et la simplicité au niveau de leur développement.
Alors maintenant, on va passer au gros du sujet. Tu m'as dit que tu gérais un gros agrégat Proxmox avec plus de 200 VM en production.
C'est ça.
Ça, tu me l'as dit dans un commentaire YouTube. Et j'ai sauté sur l'occasion pour te poser des questions et t'as accepté. Déjà, merci. Déjà, comment t'es venu l'idée et pourquoi tu t'es lancé là-dedans?
Très bien. Historiquement, on utilisait Xen sur nos serveurs physiques pour virtualiser. Et avec un outil développé par Google, il me semble, qui n'est plus trop d'actualité, mais qui s'appelait Ganeti. Et qui permettait déjà d'avoir donc des VM avec des disques flottantes et pouvoir effectuer des live migrations entre les serveurs physiques. Donc c'était un bon outil, mais uniquement en ligne de commande et il y avait quand même quelques problèmes, donc pas d'interface, pas d'API, tout à base de script et tout, c'était pas pérenne sur le long terme, je trouve. Et du coup, on a cherché un remplaçant en acquérant des nouveaux serveurs et en souhaitant renouveler notre parc de machines virtuelles. Et donc, j'ai fait un peu de veille et c'est Proxmox qui m'a paru le plus production ready pour faire ça, étant donné que nous, on travaille beaucoup en open source. Par exemple, on n'a pas envie de payer une licence VMware. VMware est très répandue en Nouvelle-Calédonie. Mais nous, on voulait rester sur des technos open source ou plus ou moins, parce que même s'il y a des subscriptions et tout, on est resté sur la plateforme gratuite. Et au début, donc, on a fait des POC, au début sans le côté live migration, donc c'était simplement pour héberger les VM. Petit à petit, on est parti sur pas Ceph au début, mais d'autres technologies, ClusterFS notamment, pour pouvoir migrer les VM, etc. Et ça s'est vite retrouvé en production sur 2 clusters parce qu'on avait 2 sites différents. Donc, on a eu historiquement 2 premiers clusters Proxmox. Donc, ça remonte déjà à 3 versions, il me semble. Et comme ça s'est très bien passé, on a... Franchement, ça fait plus de 4 ans qu'on fait de la production dessus. On n'a jamais eu un crash dû à Proxmox au niveau des machines, etc. Donc... assez content, et donc récemment on a monté encore des nouveaux clusters pour faire la migration sur Debian 12 et on est toujours satisfait de l'outil.
Bah, du coup, tu as répondu à ma question suivante. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Proxmox. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler des autres solutions que tu as écartées et pourquoi tu les as écartées au profit justement de Proxmox?
Bah, au final, je n'ai pas trouvé tant de solutions que ça. Si je ne me trompe pas, il y avait Xen Orchestra qui commençait à sortir. Mais ça m'avait l'air encore jeune, je pense que c'était les débuts, il y a 3-4 ans. Et Proxmox avait l'air déjà en place, il y avait des forums, une grosse communauté. Et voilà, donc j'ai pas eu le choix entre plein d'options. Après, on va dire quand on trouve l'outil qui a l'air satisfaisant, on continue pas à chercher longtemps, on se lance dessus. Et du coup, j'en suis satisfait aujourd'hui.
Ah, c'est vrai, il y a Xen Orchestra, on en a parlé sur le podcast. Il y a aussi OpenStack, mais c'est beaucoup plus gros que Proxmox, j'ai l'impression.
Voilà, j'avais justement, tu me rappelles ça. Ouais. Excuse-moi, tu m'as rappelé justement OpenStack. J'avais envisagé cette solution et ça me paraissait un peu complexe à mettre en place. Pas que j'en étais pas capable, mais contrairement à Proxmox qui s'installe en 5 minutes sur Debian, on reboot le serveur physique et hop, il est prêt à virtualiser. OpenStack avait l'air quand même d'une usine à gaz et donc j'ai préféré essayer Proxmox avant qui m'a satisfait.
Il y a aussi, à une époque, il y avait OpenNebula, mais je crois que le projet est un peu tombé en désuétude, j'ai l'impression. En tout cas, on n'entend pas beaucoup parler. Proxmox m'a l'air d'être en effet une. Nous on l'utilise sur un seul serveur en laboratoire, mais ça m'a l'air d'être assez simple d'utilisation et de prise en main, et que c'est quand même une, d'après ton retour, une bonne solution même pour de gros agrégats et une grosse production. Tu l'as dit, vous n'avez pas pris de support entreprise, mais depuis, est-ce que vous en avez pris, est-ce que vous l'avez testé, ou est-ce que vous êtes clairement sur la version community open source?
On est resté entièrement sur la version community parce qu'on n'a vraiment pas eu besoin d'assistance. Toutes les ressources en ligne permettent à régler la plupart des problèmes qui peuvent survenir. Honnêtement, la seule chose qui pourrait me pousser à payer une licence, c'est pour soutenir Proxmox qui fournit donc un outil open source de très bonne qualité. Mais voilà, dans les budgets de la société, qui n'est pas ma société d'ailleurs, on ne l'a pas encore fait, mais voilà, si je devais payer Proxmox, ce serait seulement pour les soutenir, parce que la version community nous satisfait pleinement.
Ouais, c'est une discussion qu'on a régulièrement, et je pense que je vais faire un live sur le sujet, sur l'aspect financement de l'open source. C'est vrai que nous aussi, on essaye de payer des licences quand on peut, auprès des éditeurs de logiciels, parce que c'est bien de les soutenir. Après, parfois, c'est arrivé récemment sur N8N, on voulait payer la licence N8N, sauf que le ticket d'entrée était à plus de 6000 euros ou 5000 euros, je sais plus. C'était beaucoup trop pour l'utilisation qu'on en aurait, donc on est resté sur une version community. Mais c'est parfois compliqué de pas pouvoir faire de dons sur ces grosses solutions. Et tu dis on, mais du coup vous êtes combien à gérer justement cette production avec Proxmox?
Du coup, on est dans une petite boîte de 15 employés et on est donc on a 2-3 développeurs au maximum, et donc je suis le seul qui a mis en place la plateforme pour la production, et maintenant il y a mon patron qui est très qualifié aussi dans ce domaine, donc on est 2 voire 3 à administrer parce que aujourd'hui on a plusieurs clusters, donc on est 2, voilà. 3 maximum qui peuvent se connecter, administrer les serveurs.
Et tu fais ça à temps plein, ou est-ce que justement tu fais d'autres projets à côté pour cette société-là, ou ton travail c'est juste de gérer toute la production Proxmox?
Du coup, donc mon travail chez ce FAI, c'est vraiment de gérer toutes les machines physique, les machines virtuelles et le déploiement, intégration continue, tout ça, que les développeurs puissent travailler dans de bonnes conditions. J'ai monté plusieurs clusters Kubernetes pour cette entreprise. Et donc, j'administre aussi ça. Donc, en fait, un peu toutes les couches du serveur physique au VM, au cluster de conteneurs, parce qu'on héberge plus de 80% de nos applications à l'intérieur. Et voilà. Mais honnêtement, ça demande une charge de travail assez forte pour mettre en place tout ça. Mais une fois que ça tourne, ça doit me prendre peut-être une journée par semaine de venir régler tous les petits problèmes. Et ça passe bien. Et c'est justement pour ça que je me lance aussi à mon compte. C'est parce que une fois que la plateforme est en place, ça me libère du temps pour aller amener ça pour d'autres entreprises, etc.
Ouais, c'est l'investissement au départ, apprendre en plus à utiliser la plateforme qui est long, mais après ça tourne tout seul, c'est ça.
C'est un peu ça. Après, quand on a beaucoup de VM, forcément, il y a toujours on a beau essayer d'automatiser le maximum, il y a toujours un disque qu'on n'a pas catché qui va être plein, on va avoir les mises à jour à faire, etc. Mais honnêtement, c'est relativement léger à gérer une fois que les choses sont en place.
Bon, alors tu m'as dit que tu gérais justement ton Proxmox avec Terraform. Alors, dans ma question, il y en a deux. Il y a la première, c'est est-ce que tu utilises Terraform pour justement installer et configurer Proxmox au départ, ou est-ce que tu utilises Terraform pour gérer tout ce qui est à l'intérieur du Proxmox, les réseaux, les VM, etc.
Donc, nos serveurs physiques, on les installe manuellement. Donc, l'installation d'une Debian, c'est assez rapide. Et ensuite, on les relie tous ensemble à Solstack. Donc, il y a un serveur qui va être master et tous les autres serveurs physiques qui vont être mignons de Solstack. Et donc, on a des recettes de configuration pour installer tous les composants de Proxmox. Donc, en fait, la seule partie longue, c'est d'installer Debian sur tous les serveurs physiques. Et ensuite, automatiquement, on déploie le cluster Proxmox en 5-10 minutes avec Solstack. Et ensuite, du coup, une fois que le cluster est up, c'est là que Terraform intervient pour provisionner les VM. Donc, tout d'abord, il y a juste l'installation d'un template ou de plusieurs templates de VM. J'aurais pu utiliser Packer pour ça. À l'époque, je l'ai pas fait, mais c'est une bonne option et j'ai vu des gens qui le faisaient avec Proxmox. Ça permet de build automatiquement le template, de relancer le build périodiquement pour avoir une machine à jour. Mais sinon, ensuite, Terraform vient cloner ce template. Donc, nous, on est à 100% sur Debian. On n'a pas de besoin de différents OS Linux. Et donc, du coup, on vient cloner ce template et Terraform clone ce template et vient modifier les paramètres de la VM. Avec Cloud Init qui arrive derrière, comme ça au démarrage de la VM, Cloud Init vient mettre la bonne adresse IP, le hostname, la clé SSH pour s'y connecter, etc. Et donc, ensuite, on a Terraform qui vient installer l'agent de Solstack directement dans la machine Debian. Et donc, notre machine, une fois qu'elle sort de la création avec Terraform, elle est déjà prête à recevoir toute sa configuration. Donc, en moins de 10 minutes, notre machine est entièrement prête à recevoir un service, que ce soit une base de données ou autre chose.
Ouais, quand tu parles des templates, c'est les images ISO que tu vas déployer sur tes VM, c'est ça?
En fait, c'est une VM Debian qu'on va ensuite venir cloner. Donc, une bonne pratique pour ça, c'est de la faire la plus petite possible. Donc, moi, je suis parti sur 3 gigas de disque. Ça permet justement que lorsqu'on clone cette machine, ça soit le plus rapide possible. Et ensuite, le disque vient grossir lorsque Cloud Init démarre la machine. Si on crée une machine avec 50 gigas, elle va être clonée à partir de 3 gigas. Le disque sera mis à 50 et dans le file system, il sera étendu jusqu'à 50 dès son premier boot.
Ok. Donc si je résume, en fait, vous utilisez Solstack et d'autres pourraient utiliser Ansible, puisque moi je n'utilise pas Solstack, mais je pourrais utiliser Ansible pour gérer tout le Proxmox. Pour gérer les VM qui sont à l'intérieur du Proxmox, tu utilises Terraform parce que il y a une API dans Proxmox, j'imagine, et que c'est adapté. On parlera après très certainement du provider Terraform. Et après, tu réutilises Solstack pour provisionner tes VM. Ce qui est plutôt classique, en fait.
C'est ça.
J'ai bien résumé.
Oui, tu as très bien résumé. On pourrait très bien utiliser Ansible. C'est juste qu'à l'époque, en fait, aujourd'hui, Ansible a pris un peu le dessus. Il y a plus de 5 ans, c'était pas vraiment le cas. C'était un peu au même niveau, les deux. Et on est parti sur SoulStack et j'en suis toujours très satisfait. Et donc, oui, ensuite, une fois que nos machines vivent leur vie, elles sont donc reliées au master SoulStack. Ça permet, par exemple, d'avoir un seul point pour gérer toutes les mises à jour des machines, pouvoir lancer des commandes à distance sur toutes les machines. Voilà, on a vraiment ce suivi de tout notre parc grâce à SoulStack.
Du coup, pour rentrer un peu dans le détail de Terraform avec Proxmox, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du provider? Est-ce qu'il est simple à utiliser? Est-ce qu'il est facile à trouver? Est-ce qu'il y a tout dessus?
C'est un petit peu le point négatif de la plateforme, c'est le provider Terraform n'est pas au même niveau que d'autres providers. Selon moi, par exemple, j'utilise les providers Vault ou les providers pour Google Cloud. On n'est pas sur le même suivi, la même communauté sur ce provider. Il est géré par une entreprise sur GitHub. Donc, il est open source, mais il y a quand même, il n'est pas géré par la communauté, entre guillemets. Donc, par exemple, quand on va remonter des bugs, ça peut mettre du temps, même avant d'avoir une réponse sur une issue, où il est déjà arrivé qu'il y ait des breaking changes non documentés. Voilà, c'est un petit peu le point noir. Mais après, si on se fixe sur une version et qu'on écrit les bonnes recettes, ça fonctionne. Et ensuite, quand on veut monter de version, on peut avoir un petit lab pour faire des tests, pour voir si nos recettes vont passer dans cette nouvelle version. Voilà, ça se fait quand même. Mais c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de certains modules Terraform beaucoup plus aboutis. Et juste pour finir, oui, il est relativement simple d'utilisation. Peut-être la critique qu'on pourrait lui faire, c'est que la définition d'une VM est relativement longue, c'est-à-dire plus d'une centaine de lignes. Mais après, comme je l'expliquerai peut-être plus tard, on automatise la création des fichiers Terraform, donc du coup, on ne les écrit pas à la main, ça pose moins de problèmes.
Et bah justement, est-ce que ce provider, il accepte les merge requests? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu... les mainteneurs, ils sont un peu loin. Est-ce qu'il y a des merge requests déjà qui sont proposés, qui sont acceptés, ou est-ce que il y a eu des envies de forquer ce provider dans la communauté et qu'il soit géré par la communauté?
Je sais qu'il y a des merge requests qui sont acceptés. Voilà, peut-être la critique que je ferais, c'est qu'il n'y a pas une grosse équipe de développeurs derrière pour veiller au bon fonctionnement du provider. Et par contre, j'ai pas vraiment suivi s'il y avait des forks qui étaient prévus. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée.
Tu m'as dit aussi que tu avais développé une interface web en Rails pour justement la création des VM. Donc derrière, tu utilises Terraform, comme tu nous l'as expliqué. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin? Est-ce que c'est justement pour que vos clients puissent créer eux-mêmes des VM facilement? C'est quoi le but derrière cette interface?
Déjà, on n'a pas vraiment de clients qui créent des VM. On peut en créer pour des personnes tiers, mais nous avons vraiment le contrôle sur... On n'est pas hébergeur de serveurs virtuels, par exemple, très peu. Donc du coup, c'est vraiment en interne, cet outil. Et en fait, c'est parti de ce provider qui... Enfin, plutôt de pouvoir avoir une interface web un peu comme un cloud, où en remplissant un formulaire et en cliquant créer, derrière, notre machine va se créer et qu'on n'ait pas donc à ouvrir Vim, éditer les recettes Terraform à chaque création de VM, à committer, à aller en pipeline, lancer les Terraform plans, apply. Ce que je voulais, c'est vraiment avoir un site web où on se connecte et on a la liste de toutes nos machines avec leurs informations. Et ensuite, on peut créer une nouvelle machine en deux clics et remplissant un tout petit formulaire rapide. Et du coup, donc pour expliquer un peu techniquement comment j'ai fait ça, donc déjà en interne dans ma boîte, on utilise un IPAM qui s'appelle Netbox, qui permet de stocker tout dans toutes les informations d'un data center, donc les serveurs physiques, les câbles, les fibres, les switches, les routeurs, mais également les VM, les clusters de VM, les adresses IP, les voilà, c'est très complet, c'est développé par DigitalOcean si je ne me trompe pas. Et donc on utilise ça, et ma volonté c'était donc d'avoir toutes les définitions de mes machines stockées dans cet outil. Sauf que de créer une machine dans cet outil qui est une boîte, enfin qui est un outil de, on va dire, de recensement, on n'avait pas d'automatisation derrière, et aussi le formulaire était un peu long. Voilà, on n'avait pas juste les informations nécessaires à la VM, il y avait trop de choses à remplir. Du coup, j'ai utilisé l'API REST de cet outil et je me suis interfacé dessus avec donc un outil en Ruby on Rails qui présente donc la liste des machines pour mes différents clusters. Donc, ce qui est bien, c'est que cet outil est multi-cluster. Donc, là, actuellement, on a 3 clusters Proxmox avec un peu plus de 200 VM. Et donc, j'ai une vue de mes 3 clusters en même temps et je peux déclencher la création de VM dans le cluster que je veux en remplissant un petit formulaire. Et comment ça se passe derrière? Donc, quand on valide ce formulaire, ça va faire un appel API vers Netbox et remplir, créer la VM dans Netbox. Et ensuite, ça va venir lancer un job Python qui va donc récupérer toutes les informations de toutes les VM et écrire du code Terraform à partir de ces infos. Et ça va committer automatiquement une fois qu'il y a une modification. Et donc, quand je crée ma VM dans ce formulaire, ensuite, je peux aller directement dans GitLab CI, voir le plan Terraform de la création de mes plusieurs VM, parce qu'on peut créer plusieurs VM en même temps, c'est l'avantage. Et donc après, j'ai juste à cliquer sur Apply et mes 3, 4, 5 VM se créent en même temps et se relient toutes seules à SolStack et reçoivent leur configuration, donc les SSH, time zone, paquet par défaut, etc. Donc en fait, en remplissant un formulaire, en 5-10 minutes après, je peux avoir mes plusieurs VM qui sont déjà prêtes à être utilisées. Et ça permet aussi donc de lister toutes ces machines. On a aussi une vue détaillée par machine qui va faire un lien avec l'outil de monitoring NetData, donc avec des graphes, CPU, réseau, mémoire. Voilà, donc j'ai développé à petite échelle mon propre petit cloud pour notre entreprise. Et c'est open source sur gitlab.com, mais j'ai pas eu le temps de faire documentation et de le rendre, on va dire, utilisable par tous les clusters Proxmox. D'accord, le code est open source, mais c'est encore un peu interne à notre entreprise. Ouais. Mais il y aurait peut-être du travail à faire là-dessus.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement, si vous aviez libéré cet outil-là. Eh ben, écoute, je te demanderai le lien dans notre conversation privée, je le mettrai dans les notes de l'épisode et peut-être qu'il y aura des contributeurs et contributrices, qui sait.
Ça serait super.
Bah, je le souhaite en tout cas. Alors, on va parler un peu en détail du cluster Proxmox. Techniquement, comment ça se passe? Vous avez combien de serveurs physiques? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez des serveurs physiques dans chaque agrégat. Est-ce que vous limitez le serveur physique dans chaque agrégat? Est-ce que c'est les vôtres? Est-ce que vous les prenez dans un data center spécifique? Comment ça se passe au niveau infrastructure?
Très bien. Donc, ces deux dernières années, on a construit notre propre data center à côté de nos bureaux. Parce qu'historiquement, on était dans des data centers un peu hybrides, c'est-à-dire des baies dans un local commercial avec des clims. Là, on a construit un vrai data center pour notre société. Et du coup, on a en même temps renouvelé tous nos serveurs. Et donc, on a pu monter, là, je vais te parler des nouveaux clusters. Donc, on a aujourd'hui deux clusters Proxmox. Un avec 8 serveurs physiques de génération récente Dell et un autre avec 6. Et on a quelques serveurs en spare au cas où qu'il y ait des problèmes sur le châssis. Et donc, c'est des serveurs relativement puissants avec 64 CPU, plusieurs centaines de gigas de RAM. Et du coup, on a ces deux clusters qui permettent donc de redonder nos services. Donc, par exemple, les reverse proxy vont être sur chacun des clusters, les DNS parce qu'on a des DNS autoritaires, des DNS récursifs pour tous nos clients. Et donc, du coup, on redonde pas mal entre deux clusters physiques, deux clusters Proxmox qui sont dans deux zones différentes. Et voilà, donc sur ces nouveaux clusters, on a utilisé Ceph qui est intégré à Proxmox. Et honnêtement, Ceph, c'est une technologie relativement compliquée à mettre en place. Je dirais que c'est un petit peu comme OpenStack. C'est voilà, il y a des gens, c'est leur travail, ils administrent des clusters Ceph. Dans Proxmox, c'est vraiment très bien intégré. Et en lisant un peu de documentation, on se retrouve donc avec un cluster Ceph fonctionnel et prêt à faire de la production. Et donc ensuite, nos VM donc, peuvent avoir accès à ce storage et peuvent basculer de serveur physique en serveur physique sans la moindre interruption. Et donc pour ça, on a dédié des SSD, on a dédié 4 SSD par serveur physique pour le cluster Ceph. Donc on a à peu près 6 Tera, il me semble, de stockage redondé avec Ceph pour nos VM. On met pas toutes les VM à l'intérieur parce que on juge que c'est seulement les VM qui ne sont pas redondées. Par exemple, notre serveur GitLab, il va être dans Ceph. Mais par contre, des reverse proxy où on va avoir 4 ou 5 reverse proxy, là, on les met en LVM locale parce que si on perd un reverse proxy, il y a aucun problème. Les autres prennent le relais grâce à BGP. Donc, voilà pour la partie disque et stockage. Et
oui, en plus,
voilà, on a fait du bonding aussi. Pour... Oui.
Ouais, je disais, ton reverse proxy, en plus, sa configuration, elle est gérée par du code, j'imagine. Donc, si tu le perds, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de données vraiment métier à
c'est
garder.
C'est ça. La plupart de nos machines, que ce soit DNS, reverse proxy, tout vient du gestionnaire de configuration. Donc, les VM sont un peu jetables. Il va que y avoir, par exemple, des clusters de MariaDB, SQL. Ça, bien sûr, les données sont importantes, mais les backups sont centralisés ailleurs. Enfin, voilà. Mais c'est, voilà, les VM qui ne sont pas sur des storage redondés sont des VM jetables que si elle a un problème on peut la supprimer et la recréer assez facilement.
Ok, je t'avoue, moi je me suis jamais lancé dans Ceph parce que ça me faisait un peu peur, tu confirmes un peu mes peurs. Du coup, ça t'a pris combien de temps à le prendre en main, même si c'est, si j'ai compris que c'était bien intégré maintenant aujourd'hui à Proxmox, t'as quand même dû lire quelques docs comme tu l'as dit, est-ce que ça t'a pris du temps à comprendre au moins comment ça fonctionnait Ceph, et c'est quoi finalement les intérêts de Ceph? Est-ce que tu peux en parler un peu pour les auditrices et auditeurs qui connaîtraient pas, le démystifier un petit peu en quelques mots?
Très bien. En plus, là, je me lance dans monter des clusters Ceph au sein d'un cluster Kubernetes pour monter des volumes, donc avec Rook.io, R-O-O-K, qui est une très bonne technologie aussi. Donc, je commence à avoir un peu d'expertise là-dessus, mais comme je disais, c'est très compliqué, donc je suis loin d'être un expert. Mais donc, on a plusieurs composants dans un cluster. On va avoir des managers, des monitors, qui vont être présents donc un peu sur tous les serveurs physiques. Et ensuite, les disques qu'on va donner, on peut pas donner une partition ou un LVM à Ceph, on lui donne un disque physique. Ça s'appelle un OSD. Et donc, c'est ça qu'on a mis plusieurs SSD par serveur pour les donner en tant qu'OSD à Ceph. Et donc, Ceph, ensuite, on va lui créer donc un volume partagé, j'ai plus le terme, mais au sein du cluster Ceph. Et on va choisir le niveau de réplication de nos données. Donc, il me semble qu'on est parti sur 3. Ça veut dire que 1 giga de données va être répliqué 3 fois au sein du cluster. Et il va découper tout ce storage en... Ils appellent ça des PG. Donc, ça va être des petites unités de ce volume de 1 giga qui va être répliqué 3 fois. Et donc, il va répartir ces PG sur tous les disques du cluster. Et donc, en cas de panne d'un serveur physique, par exemple, avec 4 OSD, il reste, disons, 12 OSD, bah, il va se rendre compte que il a perdu une centaine de PG, mais qui sont répliqués ailleurs, et donc sa réplication va être dégradée, et si le serveur ne revient pas rapidement, il va redupliquer ses données pour se réconcilier et arriver à son niveau de réplication qu'on a demandé, 3 par exemple. Et donc, il y a ce moment où, lorsqu'on perd une machine et des disques, Ceph se met à travailler via le réseau, du coup, parce que tout passe par le réseau, et il va se réconcilier ces petites unités pour remettre son niveau de réplication. Et le seul gros problème qui peut arriver, c'est si on perd un nombre supérieur de serveurs que Ceph peut tolérer, et là on peut affecter, on peut avoir des pertes de données si on perd les serveurs sur lesquels nos 3 réplications sont, ben il ne peut pas créer nos données, d'accord, il les perd jusqu'à que on remonte les disques, on remonte le serveur, et voilà. Donc si par exemple sur un cluster de 8 serveurs Proxmox, on en perd 2, il n'y a pas de problème. Si on en perd 5, là c'est sûr que les machines qui vont être dans ce storage partagé risquent d'avoir de gros problèmes tant qu'on n'a pas remonté les serveurs physiques. Par contre, même si le serveur physique est éteint pendant même une journée, qu'on le remonte ensuite, Ceph va récupérer les données, remonter et tout. Donc, je touche du bois, je n'ai jamais eu de gros plantage de Ceph. On a eu quelques problématiques que je peux te raconter après, mais en tout cas au niveau de données, ça fait le travail, et ça, une fois qu'on a eu des pannes et tout, on remonte le serveur, les données se resynchronisent et ça repart. Du coup, pour t'expliquer la petite problématique qu'on a eu, c'est que Ceph préconise d'avoir un réseau en 10 gigabits entre les serveurs dédié à Ceph, d'accord. Donc ça, c'est la préconisation de production. Ça voudrait dire que si on voulait stocker des grandes quantités de données, des terras à l'intérieur de Ceph, c'est mieux d'avoir ça. Parce que, et du coup, on l'a appris à notre détriment, parce que nous, on a fait un bonding de 2 gigas en mettant et l'administration de Proxmox et Ceph sur ces 2 gigas. Donc sur le papier, ça fonctionnait très bien, même en début de production. Et juste pour expliquer, on a un autre bonding de 2 gigas uniquement pour les VM. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise nos 4 ports de 1 giga sur nos serveurs. Et la problématique qu'on a eue, c'est que lorsqu'il y a eu un crash sur un serveur, Ceph se met donc à utiliser le réseau de ces 2 gigas à fond pour resynchroniser les données. Et Proxmox, comme il est en mode haute disponibilité, il a une notion de quorum. Et s'il n'arrive plus à pinguer ses voisins, il va rebooter tout seul le serveur. Et en fait, on a eu des problèmes de cluster Proxmox qui redémarre en pleine journée de production. Donc ça, c'est un peu les seuls problèmes qu'on a eu avec Proxmox, mais qui sont relativement embêtants. Et on a résolu ce problème il y a 6 mois à peu près, en déportant en fait ce système de quorum. Je n'ai plus la technologie en tête, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais en fait elle utilisait seulement cette interface et on peut lui donner également d'autres interfaces. Donc en fait maintenant on a ce quorum qui se ping sur les deux premières interfaces, mais également sur les deux autres DVM. Donc en fait si Ceph vient prendre trop de réseau, ça va plus rebooter parce que Proxmox va quand même arriver à se pinguer via les interfaces DVM. Mais voilà, ça s'appelle CoroSync, je viens de me souvenir. Et en fait, en modifiant un peu la configuration par défaut de CoroSync, on a réussi à régler ce problème qui était quand même majeur parce que sur plusieurs années, on a eu quand même quelques reboots de tout le cluster à des moments aléatoires. Voilà un peu mon expérience avec Ceph et avec les seuls problèmes qu'on a eu avec Proxmox, mais c'était pas vraiment sa faute si on veut le dédouaner, c'est que on bourrinait sur les interfaces réseau.
Oui, ça fait transpirer les ops, ce genre de truc. Donc, si j'ai bien suivi, parce que ça faisait partie de mes questions, c'est pour être performant, finalement, Ceph, il a besoin d'avoir sa propre carte réseau dédiée qui ne sert qu'à lui. Et tu nous l'as dit, les préconisations, c'est 10 gigabits. Donc, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Ça veut dire que ton serveur, il doit avoir plusieurs cartes réseau et que tu dois en dédier une pour Ceph. Mais dans votre cas, est-ce que, justement, sur vos 2 gigabits qui étaient partagés, à part ce problème-là, est-ce que tu as vu des problèmes de performance ou est-ce que c'est assez performant, justement, par rapport à, bon, ce sera jamais aussi performant qu'un SSD sur la machine, mais est-ce que c'est bien performant ou est-ce que vous avez quand même des latences réseau sur l'utilisation disque?
J'aurais pas de chiffres de performance à te donner. Par contre, j'ai des comparatifs entre NFS, ClusterFS et Ceph. Et Ceph est largement au-dessus. ClusterFS est le premier qu'on a utilisé. Là, on avait vraiment des VM qui étaient lentes. Par exemple, on a déjà mis des serveurs SQL dans ClusterFS. Dès qu'il y avait trop de données, ça s'est mal passé avec tous les petits binaires, etc. Et NFS, on a donc des NAS qui peuvent fournir des disques à Proxmox, enfin du storage NFS. Et là aussi, les performances sont pas super. Et avec Ceph, là, on se retrouve, donc on n'est pas au même niveau qu'un SSD local, mais étant donné que les données sont quand même, on va pas chercher les données loin dans le réseau, les données sont en partie sur la machine directement, on a des performances relativement acceptables pour mettre par exemple mon serveur GitLab qui stocke tout et là-dessus et ça fonctionne très bien. Mattermost aussi, qui pourtant la base de données Mattermost elle consomme pour tous les utilisateurs, ça fonctionne très bien. Je sans trop m'avancer, selon moi c'est la technologie de storage réseau la plus aboutie et la plus performante.
Oui, alors
sans parler d'outils propriétaires ensuite que je ne connais pas.
Non, en effet, alors j'allais dire à notre auditrice et auditeur, si ça t'intéresse, c'est du stockage, j'ai oublié le terme, c'est du stockage distribué, voilà. C'est pour ça que Ceph, justement, t'en parlais justement avec Hook Poyot, est en train, j'ai l'impression, de manger petit à petit beaucoup de parts de marché sur ces problématiques de stockage. Dès qu'on fait de la haute dispo et du distribué, c'est toujours compliqué, et encore plus dans Kubernetes. Et moi, j'ai fait du NFS dans Kubernetes et je sais à quel point c'est en effet un peu lent, mine de rien. Du coup, ça m'encourage à regarder côté Ceph. Du coup, je me rappelle que c'était la question que j'avais posée dans le podcast auquel tu as répondu. Et du coup, je vais te la reposer parce que c'est toujours bien de répéter les choses. Quand on fait un agrégat comme ça, Proxmox, l'idée, et pour moi en tout cas, mon côté écologique, c'est d'utiliser toutes les ressources des serveurs physiques, donc que ce soit le CPU, la RAM et le disque dur de la machine, pour justement avoir une sorte de pool comme ça, et tu t'as plus à gérer en fait des petites machines que tu ajoutes, tu gères un pool, et l'idée avec Proxmox et Ceph, tu confirmes que c'est de faire ce qu'on appelle de l'hyperconvergence, c'est-à-dire comme si tu avais imagée, hein, mais comme si tu avais un gros serveur avec plein de RAM, plein de CPU et plein de disques, et tu peux puiser dedans pour créer tes VM.
N'ayant jamais utilisé VMware, je pourrais pas comparer parce que justement les choses de d'hyperconvergence sont souvent portées par VMware. Moi, je t'explique ce que j'ai compris. Dans Proxmox, quand on a nos 8 serveurs physiques, on voit les informations globales du cluster. Par exemple, j'ai 2 Tera de RAM, etc. Mais par contre, les VM présents sur un serveur physique consomment les données que de ce, les ressources que de ce serveur physique. D'accord? Si je peux pas avoir une VM avec 64 gigas de RAM si le serveur en a 32. Voilà. Je sais pas si VMware propose, en gros, de faire un vrai pool. Là, on a quand même cette notion de telle VM est sur tel serveur. Elle peut basculer d'un à l'autre sans problème, mais on peut surcharger un serveur si on ne distribue pas correctement les VM. C'est peut-être la limitation de Proxmox, c'est que il y a quand même ce placement sur serveur physique à prendre en compte.
Ouais, mais l'idée quand on a des petites et des grosses VM, c'est justement de charger tes serveurs et tu peux utiliser finalement une grande partie de ton CPU, de ta RAM et de tes disques et ne pas en laisser de côté et ne pas gaspiller du coup des ressources. C'était plus ça mon idée, notamment avec parce que c'est souvent le disque en fait qui est gaspillé, parce que autant la RAM et la CPU, tu vois, tu peux faire transiter tes VM d'un serveur à l'autre et puis t'as des petites et des grosses VM qui permet de les remplir, mais le disque c'est toujours un problème et j'ai l'impression qu'avec ce que tu nous as expliqué dans Ceph, le fait que ce soit bien distribué, ça pose plus ce genre de soucis.
Oui, sur la partie storage, là on a cette hyperconvergence, c'est-à-dire que nous on a du storage minimaliste sur les serveurs physiques, je parle peut-être de 300 gigas, donc c'est du LVM classique. Et ensuite, on donne le plus de disques possible à Ceph pour avoir donc ce storage partagé. Et là, du coup, tous les serveurs physiques qui ont accès à ce storage peuvent accepter des VM qui ont ce storage, etc. Donc là, on a cette convergence au niveau du storage uniquement, en tout cas.
Merci. Tout à l'heure, t'as parlé d'un truc. Alors, je voulais réagir, mais je voulais pas t'interrompre. T'as parlé de Spare. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, notamment moi, parce que j'ai déjà entendu ça, mais je connais pas la définition de spare, est-ce que tu peux définir ce qu'est une machine spare? Je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Et à quoi ça sert, en fait?
Je suis pas expert là-dessus, mais je crois qu'il y a deux types de spare. Il y a le cold spare et hot spare. Nous, on a des serveurs physiques dans nos bureaux qui sont neufs, installé et prêt à venir remplacer un serveur physique. C'est-à-dire, si on a des CPU et tout qui se mettent à cracher sur un serveur ou toute la stack réseau qui ne fonctionne plus, on va récupérer les disques, les mettre dans ce serveur physique, venir le racker et en l'allumant, il va prendre le relais comme s'il était le serveur d'avant. Donc c'est ça comme spare qu'on fait. Et je pense que les hot spares, c'est des serveurs physiques qui sont déjà rackés en data center et qui sont prêts à prendre le relais le plus vite possible. Nous, on a quand même une intervention manuelle pour venir. Voilà. Mais c'est sûr que c'est quand même confortable d'avoir, donc on a un cluster Proxmox de 8. Si un jour il est bien rempli et qu'on ne peut pas se permettre d'en perdre un, c'est vraiment bien d'avoir des serveurs neufs prêts à prendre le relais en cas de problème en une demi-heure maximum.
Cool. En tout cas, ça promet. Je pense que je vais faire écouter cet épisode de podcast à mon associé parce qu'on s'intéresse beaucoup à Proxmox et on se demande si ça peut pas être une de nos solutions pour l'avenir. Alors, tu nous l'as dit, tu as créé une société qui s'appelle Ops.nc. Est-ce que tu es seul dans cette société ou est-ce que vous êtes plusieurs? Et quel type de service tu vas proposer? Est-ce que tu vas proposer justement cette expertise Proxmox ou d'autres choses?
Donc, ça fait déjà quelques années que je fais des formations pour la fonction publique ou des boîtes privées ou des prestations également chez, par exemple, l'un des plus grosses boîtes de développement en Nouvelle-Calédonie. Et j'avais envie de faire ça à mon compte, donc c'est pour ça que j'ai monté cette société. Pour l'instant, je suis tout seul. et j'arrive vite à la limite de mon temps parce qu'on peut pas se dupliquer. Donc il y a pas mal de demandes sur le sujet. Pour te donner une idée, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de boîtes de développement web, communication, etc. Beaucoup de sociétés qui écrivent du code, mais peu de gens pour administrer. Donc souvent ils vont recruter en interne, mais il y a aussi des difficultés à recruter des sysadmins qualifiés ici. Donc d'ailleurs, si des gens veulent venir sous les cocotiers et sont des bons administrateurs, il y a beaucoup de postes à pourvoir ici. Donc je recruterai sûrement dans le futur pour me développer, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment pour moi. Et ce que je propose, donc là, bah, par exemple, Proxmox, je vais commencer une prestation chez un des plus gros hébergeurs de data center en Nouvelle-Calédonie, qui est sur VMware actuellement et qui va avoir des serveurs décommissionnés pour lesquels ils trouveraient légitime de ne pas prendre de licence et de passer sur Proxmox. Donc, du coup, je vais venir apporter mon expertise là-dessus. Et sinon, je fais des prestations pour monter et administrer des clusters Kubernetes, que ça soit en local ou sur le cloud. Là, récemment, j'ai mis plusieurs clusters pour cette boîte de développement sur Google Cloud en Australie. Donc, c'est le data center le plus proche de nous chez Google. Voilà, également de l'intégration continue, voilà, donc surtout dans les boîtes de développement ou dans la fonction publique, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et également donc des formations sur Linux, Kubernetes, Docker.
Voilà. Eh ben écoute, tu me fais une transition parfaite pour parler de mon job board, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai lancé mon job board. Si tu veux recruter, tu pourras aller sur mon job board et tu pourras toucher une partie des gens qui sont intéressés par le DevOps. Et puis, bah, si toi-même, quand tu écoutes ce podcast, tu cherches un job, tu peux passer par mon job board. Le lien, de toute façon, il est dans les descriptions de tous les podcasts. Alors, je vais te poser la question traditionnelle que je pose à la fin de toutes mes interviews. Est-ce que, justement, tu as un livre, un article, une conférence ou une ressource à conseiller, justement, à nos auditrices et auditeurs?
Donc pour le livre, je vais rester sur un livre qui m'a pas mal aidé à me former, c'est le Linux Bible, donc la Bible de Linux, qui est donc en anglais, mais qui est un pavé comme ça. Je l'ai cherché avant le podcast, je l'ai pas retrouvé malheureusement, mais vraiment un livre très complet sur tout l'univers Linux, du noyau, réseau, stockage. Voilà, franchement, en lisant ce livre, les compétences augmente énormément. Et ensuite, les conférences, à l'époque où je me formais sur Kubernetes, c'est Kelsey Hightower de chez Google qui faisait des conférences assez sympas, notamment quand il disait « Ok Google, scale mon application à 50 containers » et puis hop, ces conteneurs se scalaient. Je trouvais que ça avait la classe, voilà.
Eh ben écoute, si t'as le lien de cette conférence, je veux bien que tu me la donnes, pareil, en message privé, comme ça je pourrais la mettre dans les notes de l'émission. Et si bah justement on veut te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on te retrouve?
Le mieux ça serait Twitter, donc c'est Valentin _ Ops OPS. Voilà.
Eh ben merci Valentin, je me permettrai de mettre aussi le lien de ton site et puis si tu veux bien le lien de ton LinkedIn, sauf si tu veux pas, je le supprimerai.
Ouais, y a pas de souci, avec plaisir.
Comme ça on pourra te contacter. Écoute Valentin, merci pour cette interview, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Je suis sûr que notre auditeur et notre auditrice aussi. Et je vais te laisser le mot de la fin pour conclure.
Je te remercie Christophe de m'avoir reçu sur ton podcast qui est de très bonne qualité et c'est un plaisir d'écouter vos émissions avec tous tes intervenants. Et je voudrais remercier mon ami Samy qui m'a fait découvrir ton podcast et qui va sûrement écouter celui-là. Voilà. Et c'est tout et j'espère qu'il y aura plein d'autres émissions intéressantes.
Eh ben merci à Samy de partager le podcast, c'est comme ça qu'en effet on découvre le podcast.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.